Radio Classique, l'invité de Renaud Blanc avec Le Figaro.
Bonjour Yaël Braun-Pivet.
Bonjour.
Présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, députée La République En Marche des Yvelines. Vous venez d'écouter avec beaucoup d'intérêt l'édito, le billet de Guillaume Tabar. On parle effectivement du retour des djihadistes. On annonce des chiffres très très différents. On parle de 150 djihadistes, mais certains spécialistes disent non, il y aura plus de 1000 personnes qui vont revenir, 500 adultes, à peu près 500 enfants. Est-ce que vous avez des chiffres relativement précis à nous donner ?
Je n'ai pas de chiffres plus précis. On sait qu'il s'agit d'hommes, de femmes et d'enfants dans des proportions très différentes, mais je n'ai pas de chiffres particuliers.
Donc le chiffre de 1000 aussi qui circule, il ne vous semble pas complètement extravagant ?
Écoutez, aujourd'hui, moi, j'entends des chiffres beaucoup plus restreints que celui-là. Celui-là m'apparaît beaucoup trop élevé. Et de toute façon, aujourd'hui, les choses sont claires. Il n'y a pas de programme de retour de djihadistes sur notre territoire à l'heure où je vous parle.
Vous faites une différence entre les enfants, les femmes, les hommes ?
Écoutez, moi je pense qu'effectivement la question des enfants doit se traiter différemment, s'agissant surtout d'enfants en très bas âge. Quand on parle d'enfants, on ne parle pas d'adolescents ou de jeunes adultes, on parle vraiment d'enfants, de nouveau-nés et de très jeunes enfants, pour lesquels la question se pose, ce d'autant plus qu'il existe des enfants qui sont orphelins, qui ont perdu leur père et mère, alors qu'ils sont, ils ont de la famille ici et ils sont de nationalité française. Et je pense que pour cela, spécifiquement, ceux qui sont orphelins, nous leur devons la protection.
Alors certaines familles, notamment souvent les grands-parents de ces enfants, portent plainte, certains veulent porter plainte contre l'État français. Vous comprenez leur démarche ?
Je comprends leur désespoir, en tout cas. Ils sont grands-parents d'enfants qu'ils, pour la plupart, n'ont jamais vus, qui sont sur des théâtres extrêmement dangereux pour leur sécurité. Et encore une fois, quand les parents de ces enfants sont décédés, je pense qu'il serait humain de rapatrier ces enfants.
Mais théoriquement, en droit, lorsqu'on commet des actes répréhensibles à l'étranger, on doit être jugé à l'étranger, on n'est pas jugé en France.
Attention, là on parlait des enfants.
C'est un autre sujet.
En droit, en fait, quand on commet des actes à l'étranger, on peut être jugé soit sur son propre territoire du fait de sa nationalité, donc jugé en France, mais on peut tout à fait être jugé à l'étranger. C'est le cas, et on entend toujours ces affaires qui défraient la chronique sur des affaires de stupéfiants, notamment dans les pays d'Asie du Sud-Est. Quand on entend quelqu'un qui trafique des stupéfiants en Thaïlande, par exemple, il est jugé et détenu en Thaïlande, et cela pose aucune difficulté. Donc c'est exactement la même chose pour les djihadistes. Ils peuvent tout à fait et ils doivent être jugés là où ils ont commis leur forfait.
On va bien sûr parler de Condé-sur-Sarthe dans un instant. Il y avait des sondages la semaine dernière, à peu près 8 à 9 Français sur 10 disaient on ne veut surtout pas les voir revenir en France en parlant des djihadistes. J'imagine que vous comprenez cette peur. Mais la question c'est est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'accueillir 150 à 200 djihadistes très dangereux parce que ce sont des irréductibles qui restent sur place en France ?
On a dans notre système judiciaire tout à fait les moyens d'accueillir toutes les personnes que nous devons prendre en charge si tant est que ça soit le cas. Ils seront bien évidemment, si ils sont rapatriés, pris en charge immédiatement par le parquet antiterroriste. Ils seront probablement mis en examen, incarcérés, et nous avons au sein des prisons en France la capacité pleine et entière de les prendre en charge de façon sécurisée.
Alors, faille ou faute à Condé-sur-Sarthe, il y a plus d'un an, il y avait eu une agression similaire à Vendée-le-Vieil. Les agents pénitentiaires se disaient démunis, pas écoutés, ils réclamaient un certain nombre de mesures. Ils ont le sentiment qu'un an plus tard, il ne s'est rien passé.
C'est pas vrai, il s'est passé beaucoup de choses. À la Commission des lois, nous avons décidé de mettre la question pénitentiaire au cœur de notre action. Nous avons d'ores et déjà rendu deux rapports, dont un rapport qui fait suite justement aux événements d'il y a un an à Vendée-le-Vieil, puisque nous avons rendu un rapport sur les fouilles en détention. Moi-même, personnellement, j'ai visité près de 20 établissements et à chaque fois, je m'entretiens.
Je rappelle que vous êtes avocate de formation et que ces questions sur les prisons, c'est une question centrale pour vous.
Exactement, mais qui est centrale également pour la Commission des lois et pour le gouvernement. Donc, le gouvernement a mis en place de nombreuses mesures pour assurer la sécurité des établissements et des surveillants.
Mais vous comprenez quand même qu'autour de Condé-sur-Sarthe, prison ultra sécurisée, on a l'épouse, la compagne d'un djihadiste qui arrive donc qui n'est pas fouillé, puisqu'effectivement, on ne fouille pas les familles et les gens extérieurs.
Ça n'est pas exact. Les personnes qui rentrent en détention passent sous un portique de sécurité, exactement comme vous, oui, quand vous passez sous un portique quand vous prenez l'avion.
Ce que disent les agents pénitentiaires, c'est qu'ils passent une première fois, ils repassent une deuxième fois, mais comme on ne peut pas les fouiller, faire une fouille à corps, effectivement, soit on appelle la police pour qu'elle vienne, soit on les laisse passer. Donc il y a quand même une faille, il y a quand même un problème.
Moi, ce que j'ai entendu, alors, il y a un rapport d'inspection qui va avoir lieu, puisque la garde des Sceaux a immédiatement lancé une enquête. Donc on aura... Non, mais là, c'est un rapport très précis, exactement comme il y en avait eu un sur l'évasion de Redouane Faïd, et la garde des Sceaux était également venue devant la commission des lois à l'Assemblée nationale s'expliquer des conclusions de ce rapport. Donc ça n'est pas juste un rapport de plus, c'est faire un rapport pour comprendre ce qui s'est passé, pour pouvoir en informer les premiers intéressés, donc les surveillants et la population, et la représentation nationale si les députés estiment nécessaire d'entendre la garde des Sceaux sur ce point. Donc c'est pas un rapport de plus, mais c'est un rapport pour comprendre ce qui s'est passé, parce que c'est extrêmement important d'analyser les faits et de ne pas s'en tenir aux rumeurs ou aux impressions qu'on peut avoir.
Vous n'êtes pas choqué, alors c'est vrai que l'enquête est en cours, mais voilà, que manifestement, la femme de cet homme radicalisé est entrée avec un couteau.
Mais bien sûr qu'on est choqué quand on entend qu'en détention, on peut rentrer avec une arme. Oui. Une arme qui a causé des dégâts incroyables. On a quand même deux surveillants qui ont risqué leur vie en étant au contact de ce couple-là. Donc c'est gravissime. Donc bien évidemment, il faut être extrêmement vigilant, extrêmement attentif à cette question de l'introduction d'objets en détention, parce que les surveillants, dans ces cas-là, peuvent risquer leur vie.
Alors, Yaël Braun-Pivet, il y a cette question posée d'ailleurs par Gilles Kepel qui était sur notre antenne hier. Il disait, en fait, on a peut-être une vision un peu idyllique, angélique, un peu naïve, en tout cas, des rôles des femmes justement qui accompagnent les djihadistes. Et on n'a pas bien vu le danger. Certaines associations mettent d'ailleurs en relation des détenus radicalisés avec ces femmes. Est-ce qu'il faut revoir justement tout cela et se poser des vraies questions en disant, les femmes peuvent être aussi dangereuses, voire plus dangereuses que les hommes?
Voilà, vous l'avez dit, je pense que les femmes peuvent être aussi dangereuses que les hommes, et notamment sur ce plan-là, sur le plan des actes terroristes, on a à l'esprit des cas où les femmes effectivement se sont montrées extrêmement dangereuses. Donc aucun angélisme, une vigilance extrême, et s'il faut prendre des mesures, soyez sûr que la garde des Sceaux prendra des mesures et que nous la soutiendrons en tant que parlementaires.
Et beaucoup diront, il y a un an qu'on aurait peut-être pu prendre ces mesures.
Encore une fois, je ne vous suis pas là-dessus. Là, nous venons de voter le projet de loi justice. Dans ce projet de loi justice, nous avons voté 80 millions d'augmentation de budget pour la sécurisation des établissements pénitentiaires. J'ai moi-même proposé un amendement permettant aux renseignements pénitentiaires de déployer les moyens de surveillance, justement en cas de risque pour la sécurité des établissements ou en cas de risque d'évasion, ce qui n'était pas possible avant. Donc nous agissons, nous avons pris un plan de lutte contre la radicalisation en prison, nous créons des quartiers d'évaluation,
de prise en charge. Ça marche, la déradicalisation, parce que beaucoup de spécialistes disent que c'est du vent.
C'est compliqué, c'est pas du vent, c'est trop facile de dire c'est blanc, c'est noir, ça marche pas. C'est compliqué, je mets au défi quelqu'un aujourd'hui de me dire j'ai trouvé la solution pour déradicaliser des gens. Il faut bien justement ne pas faire preuve d'angélisme. Nous sommes face à des gens qui sont prêts à tuer au péril de leur vie parfois. Donc ces personnes-là, c'est extrêmement difficile de les prendre en charge. Nous nous y attelons, nous mettons les moyens, mais les déradicaliser, effectivement, ça, c'est un autre sujet.
Alors, j'ai trois questions encore. L'ONU qui sermonne la France sur les questions de policiers face aux Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations de la Haut-Commissaire aux droits de l'homme, donc qui épingle la France avec notamment les fameuses grenades de désencerclement et les lanceurs de balles de défense?
Écoutez, moi, j'ai pas lu ça lorsque j'ai lu son discours. Oui. J'ai lu qu'elle était attentive à la situation et qu'elle invitait le gouvernement à discuter avec les manifestants et à enquêter à chaque fois qu'il y aurait une plainte, et c'est exactement ce que fait le gouvernement. Il y a une enquête aujourd'hui à chaque fois qu'il y a une plainte d'un manifestant qui s'estime victime de faits de violence.
Yaël Braun-Pivet, on a beaucoup parlé laïcité cette semaine du côté de La République En Marche. Un serre-tête et un voile, c'est quand même assez différent, vous êtes d'accord?
Ça n'a rien à voir, je suis d'accord.
Donc Aurélien Taché aurait dû se taire?
Chaque député prononce les propos qu'il souhaite. Maintenant, j'ai cru comprendre et je l'ai entendu. Il s'excusait, il regrette ses propos. Donc, je pense que la polémique est close.
Mais on a quand même le sentiment, à l'intérieur de La République En Marche, que c'est un peu le grand écart sur cette question de la laïcité. Et à la limite, on retrouve ce clivage entre la droite et la gauche.
Mais on discute beaucoup au sein de La République En Marche. Et effectivement, on n'est pas d'accord sur tout. Et c'est toute la richesse de notre mouvement. Donc, cette question est évidemment...
C'est une question centrale, la laïcité.
C'est une question centrale. Elle est en débat entre nous. On en discute. Et je pense que la position, alors je ne sais pas s'il y aura une position ferme et tranchée.
Ça serait pas mal qu'au bout de deux ans, parce que ça
mouvement.
Fait deux ans que vous êtes au gouvernement, vous ayez une position soit tranchée, soit relativement claire sur la laïcité, qui est quand même un point essentiel de notre
Mais je pense que la position sur la laïcité est parfaitement claire.
Oui.
Après, voilà, il peut y avoir des nuances sur certains points spécifiques, mais la position sur la laïcité est claire et tranchée.
Voilà, entre Aurélien Taché et Aurore Berger, on a l'impression que c'est quand même plus qu'une nuance. Les européennes, tête de liste alors, Agnès Buzyn ou Nathalie Loiseau, quelle est votre préférence ?
Moi, je suis ravie parce qu'on parle de femmes.
Oui.
On parle d'elles, on parle d'autres femmes encore, mais je n'entends parler que de femmes. Et je pense qu'à la veille
parce que
de la journée
présent,
de la femme...
C'est vrai que vous ressemblez plutôt au vieux monde, hein, côté le perchoir pour un homme, le Premier ministre un homme, le Président bon un homme. Voilà, effectivement, il y avait peu de femmes sur le devant de la scène. Agnès Buzyn ou Nathalie Loiseau, est-ce que vous avez une préférence ?
Je n'ai pas de préférence.
Oui.
Moi, une femme, je vous dis encore, me réjouis. Maintenant, je ne peux pas vous laisser dire ce que vous avez dit. À l'Assemblée nationale, on a fait une attribution de poste parfaitement paritaire. Les présidences de commission sont paritaires, les vice-présidences, les postes de questure sont paritaires, donc nous avons, je pense, nous sommes à la hauteur de cet enjeu de parité.
Merci Yaël Braun-Pivet d'avoir répondu à mes questions, la présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, députée La République En Marche des Yvelines, l'invité de Radio Classique, très bonne journée à vous, 8h27,
merci.
Dans un instant, l'essentiel de l'actualité.